Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici, dans le monde carcéral. Et une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Noël Mamère de passage à Bourg-en-Bresse pour une conférence avec la Ligue des droits de l'homme la semaine dernière. Il est notre invité pour parler d'écologie et de politique.
Les assises du bois et de la forêt ont eu lieu pour la première fois dans l'Ain. Reportage dans la forêt de Seillon avec l'Office national des forêts pour comprendre les enjeux climatiques de la gestion des forêts.
Et tout de suite, c'est toute l'actu en bref.
Bourg en bref.
Lancement des travaux de la Plaine Tonique à Montrevel-en-Bresse.
Un peu plus de 50 ans après leur ouverture, le camping et la base de loisirs vont se moderniser. Des changements du côté des bâtiments et plus d'espaces verts. Objectif, développer les activités, les services et les hébergements. Et avec ces travaux, Grand Bourg Agglomération veut aussi adapter le site à la transition écologique. La fin des travaux est prévue d'ici 2025. Ils auront lieu à l'automne et au printemps pour ne pas gêner l'activité touristique. Pendant les travaux, la Plaine Tonique sera seulement accessible le week-end.
Le pont Jacques Chirac verra-t-il le jour ?
Il devrait relier l'Ain et la Saône-et-Loire. Jeudi dernier, le tribunal administratif de Lyon a suspendu son autorisation de construction. La raison, il pourrait nuire aux espèces protégées. En réponse, les deux départements ont annoncé se pourvoir en cassation auprès du Conseil d'État. Les travaux sont donc suspendus pendant toute la durée de la procédure.
La Poste recrute près de 90 saisonniers dans l'Ain.
Des équipes renforcées pour traiter les nombreux colis des fêtes de fin d'année. Jusqu'à 4 millions de colis seront triés et livrés chaque jour. C'est près du double de ce qui est distribué quotidiennement le reste de l'année. Dans l'Ain, 89 CDD et intérimaires seront recrutés pour la période de novembre à décembre.
Pour la Toussaint, le cimetière de Bourg-en-Bresse est ouvert sans interruption.
Et vous pouvez venir de 7h30 à 18h et c'est jusqu'au mardi 2 novembre. Le 1er novembre, exceptionnellement, les voitures sont autorisées à rentrer dans le cimetière pour déposer des plantes. C'est entre 5h et 9h du matin uniquement.
Des nouvelles de nos médaillés olympiques.
En rugby, Chloé Jacquet entre dans le groupe du 15 de France féminin, une sélection quelques mois après sa médaille d'argent en rugby à 7 à Tokyo. La liste des 31 joueuses retenues a été dévoilée la semaine dernière. Depuis dimanche dernier, la Viriati est en stage à Marcoussis pour préparer les 3 matchs test de la tournée d'automne prévue en France. Les Bleus affronteront l'Afrique du Sud le 6 novembre à Pau. Côté cyclisme sur piste, Florian Grenbeau et ses coéquipiers sont vice-champions du monde de vitesse par équipe. Une médaille d'argent remportée au championnat du monde 2021 à Roubaix. Ces derniers se sont terminés dimanche dernier. À 21 ans, le Burgien ajoute une nouvelle ligne à son palmarès après le bronze cet été au JO de Tokyo.
Radio B. Les vacances de la Toussaint, c'est jusqu'au dimanche 7 novembre. Alors, que faire ? Églantine en stage avec nous cette semaine vous propose sa sélection. Bonjour Églantine.
Bonjour. Ce week-end des 30 et 31 octobre, plein d'activités sont prévues autour de sorcières, fantômes et friandises. Et oui, c'est Halloween. Pour les ados et les adultes, rendez-vous au monastère royal de Broux le samedi 30 octobre à 17h30 pour la mortelle soirée. En équipe, vous devrez enquêter pour retrouver l'assassin de la restauratrice du musée. Attention, il faut réserver. Toutes les infos sont sur le site du monastère de Broux.
L'abbaye d'Ambronay propose, elle, pour la première fois, un escape game pendant toutes les vacances de la Toussaint.
La mission se déroule pendant la guerre entre la Savoie et le Dauphiné en l'an 1317. Objectif ? Sauver la baie enfermée dans les cachots de la tour. Le scénario est inspiré de faits historiques. C'est à partir de 11 ans. Réservation en ligne sur le site de l'abbaye. Autre activité familiale à Bourg-en-Bresse, des expos photos pour s'interroger, entre autres, sur notre utilisation de l'eau. La quinzaine photographique Vraiment, avec 3 points d'interrogation, c'est jusqu'au 3 novembre. Découvrez des expositions et projections sur le thème « Eau trouble, eau vagabonde ». Ça se passe à H2M, l'Office de tourisme, la tannerie ou encore la chapelle Lalande. Et c'est gratuit.
Merci Églantine.
L'invité de Radio B.
Noël Mamère, bonjour.
Bonjour.
Certains se souviennent de vous comme journaliste, d'autres comme maire de Bègles en Gironde ou encore comme le candidat des Verts à l'élection présidentielle de 2002. Roxana, collégienne et en stage à la radio, a réalisé un micro-trottoir.
L'écologie, c'est prendre soin de la planète du mieux qu'on peut et vivre en adéquation avec ses besoins à elle et les nôtres, mais surtout respecter les siens.
En cours, prendre soin de la planète.
La définition, ça serait qu'on a des solutions qui existent, mais la définition de l'écologie, c'est pas faire du lobbying, quoi.
Une planète propre ?
À votre échelle, que faites-vous pour faire avancer l'écologie ?
Alors, le tri, bien entendu, des ordures. J'essaye de me passer de tout ce qui est plastique, emballage plastique au maximum. Réduire en déplacement, si possible, en tout cas se déplacer en moyen doux, que ce soit vélo, marche, etc. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire tous à notre échelle. Si on en fait tous un petit peu, j'espère que ça pourra changer les choses.
Alors, le robinet d'eau, ne pas laisser couler, trier les poubelles, prendre des produits d'hygiène écologique.
Le tri et pas de attention au gaspillage alimentaire surtout.
Je trie mes ordures.
Déjà, ouais, comme je vous disais, un recyclage à peu près sérieux déjà dans tout ce qui est poubelle. Et puis, bien sûr, pas jeter sur la voie publique, puis dans la nature.
Je fais le tri, bien sûr, un peu comme tout le monde. Après, je ramasse les déchets, souvent quand je me balade dans un parc ou dans la nature. S'il y a des déchets, je les ramasse, même si c'est pas à moi. Et puis, je fais des dons de temps en temps, genre à Greenpeace ou à des associations, voilà.
Merci à Roxana en stage à la radio pour ce micro-trottoir réalisé au marché de Bourg-en-Bresse. Noël Mamère, une réaction à ce que vous venez d'entendre ?
C'est très encourageant d'abord ce qu'on entend. J'ai retenu parmi les réponses qui vous ont été apportées, celle de ce garçon qui parle de résister au lobbying. Je pense que l'écologie, c'est un des outils pour résister aux nombreux lobbies. On est en train de s'apercevoir, notamment avec l'augmentation du prix du gaz et du pétrole, que le lobby des énergies fossiles reste encore très puissant. Comme celui d'ailleurs de l'agro-industrie et comme celui qui fabrique des pesticides qui contribuent à détruire l'environnement et aussi à tuer les paysans. Donc je crois qu'il faut qu'on explique bien que l'écologie, contrairement à ce que voudraient faire croire certains, ce n'est pas le monde des bisounours, ce n'est pas ce qui met tout le monde d'accord. L'écologie, elle ne met pas tout le monde d'accord. L'écologie, elle a des adversaires déterminés, elle a des ennemis. Et la période dans laquelle on est en train d'entrer va devenir de plus en plus dure. Et effectivement, si l'on veut que l'écologie gagne, il faut que l'ensemble de la population se sente concernée par cette question et se dise que si on ne bouge pas, si on ne fait pas évoluer le système, si on ne le fait pas craqueler, alors nos enfants auront beaucoup de difficultés à vivre sur cette planète.
Et ce serait quoi alors votre définition de l'écologie ?
Et l'écologie, c'est une conception globale de la société, c'est-à-dire comment on respecte notre entourage, comme le dit le philosophe Bruno Latour, comment on respecte l'ensemble du monde des vivants qui constitue le monde vivant sur la planète, et comment on la lie à la question de la justice et à la question des inégalités sociales. Et il ne faut pas imaginer une seule seconde que l'écologie peut être le sous-traitant de quelque régime que ce soit. Non, l'écologie, c'est une conception de la société à part entière, mais on ne peut pas faire d'écologie sans la lier à la question de la justice sociale et à la question de la lutte contre les inégalités.
Et comment vous voyez l'évolution de la place de l'écologie dans le débat public ?
Pour l'instant, je suis plutôt consterné de voir que droite et gauche, qui sont d'ailleurs les deux plutôt en faillite de pensée, on est en train d'assister à la décomposition de la droite républicaine, d'un parti socialiste qui est à peu près dans le même état, ce qui laisse un espace considérable pour les marchands d'illusions et ceux qui jouent sur les peurs des Français, qui leur inventent des boucs émissaires. C'est tellement plus facile de s'inventer des ennemis que de regarder la réalité de ce que nous vivons. Je pense qu'aujourd'hui, le débat sur l'identité, l'immigration est organisé d'une certaine manière comme un leurre ou comme une diversion pour éviter de parler des vrais problèmes qui se posent aux Français. Des problèmes d'inégalité, des problèmes d'injustice sociale, des problèmes de précarité, des problèmes de santé, des problèmes de malbouffe. Tout ça, on n'en parle pas.
Et ça vous inquiète pour les mois à venir, puisqu'il y a la présidentielle en 2022 ?
Non seulement ça m'inquiète, mais ça m'indigne et ça me révolte. Et donc je pense qu'il est heureux qu'il y ait un candidat écologiste pour les prochaines élections. J'espère qu'il pourra se faire entendre et que nous ne serons pas inondés, submergés par le discours identitaire qui n'est qu'un leurre et un poison pour notre société.
Donc c'est Yannick Jadot qui sera le candidat d'Europe Écologie Les Verts pour la présidentielle 2022. Selon vous, il a ses chances ?
J'ai été candidat moi-même, donc je vais pas vous dire que l'écologie n'a pas de chance. Enfin, si l'écologie n'a pas de chance en 2021, qui est le siècle de l'écologie, qui est le moment où il faut changer d'imaginaire, c'est à désespérer. Donc j'espère que Yannick Jadot fera un score bien supérieur au mien. Mais il ne peut pas être là comme un candidat de témoignage. Il faut qu'il soit là comme un candidat de la transformation. C'est très difficile, parce que comme vous l'avez constaté, la gauche est extrêmement divisée. Donc, soit la gauche a envie de est suicidaire et donc est en train d'armer le fusil qui la flinguera, soit elle sera responsable et on verra ce qui se passe en 2022.
Noël Mamère, vous avez écrit Les Terrestres, une bande dessinée avec des reportages sur l'écologie avec Raphaël Macaron, jeune illustratrice libanaise. Qui souhaitez-vous toucher avec cet ouvrage ?
Écoutez, cet ouvrage, nous l'avons fait de manière non didactique, c'est-à-dire que quand on le lit, on n'a pas le sentiment que nous donnons des leçons, mais que deux regards se croisent, celui d'un vieil écologiste que je suis et celui d'une jeune femme qui découvre en fait en quelque sorte ses problèmes et qui en plus a une singularité, c'est qu'elle est libanaise. Et donc quand on lui parle de la guerre au climat, elle sait ce que ça veut dire la guerre. Et c'est la guerre qu'a connue sa famille pendant les 10 dernières années qui sont écoulées, la guerre du Liban, les conditions tragiques dans lesquelles se trouve ce pays. Elle sait ce que ça veut dire effondrement. L'effondrement du Liban, on est en train d'y assister. Et donc, c'est tout un cheminement qui s'est fait dans sa tête, reportage après reportage, puisque j'ai choisi 5 lieux différents, 5 illustrations de ce que pourrait être un engagement pour un monde différent. Et je pense que ce qui fait l'intérêt de cette bande dessinée, en tout cas, ça permet de découvrir des initiatives dont les médias parlent assez peu, en fait, et qui montrent qu'il y a des pistes à suivre, mais pas simplement des pistes dans la relation au monde vivant et à la nature, mais des pistes aussi sur les pratiques démocratiques.
Ce jeudi 21 octobre, vous êtes l'invité de la Ligue des droits de l'homme pour une conférence intitulée « Quelles alternatives ?» Alors, des alternatives à quoi ?
Alternatives au système dans lequel on est. Les utopistes sont ceux qui veulent aujourd'hui maintenir le statu quo, toujours s'arc-bouter sur la croissance, toujours s'arc-bouter sur l'exploitation de nos ressources, toujours s'arc-bouter sur certains types d'énergie, sur un certain modèle, qui est le modèle néolibéral. Contre les utopistes, il y a les réalistes, et les réalistes, ce sont aujourd'hui les écologistes, c'est-à-dire ceux qui disent qu'il faut pratiquer une sorte de grande bifurcation par rapport au système dans lequel nous sommes aujourd'hui, et qui formulent un certain nombre de propositions. Nous le faisons depuis déjà 40 ans, hein. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel de l'écologie. Et qui essaie d'expliquer qu'on peut bâtir un monde ensemble, de manière démocratique et non pas autoritaire, qui permettent de la survie de l'espèce humaine.
Est-ce que vous deviez citer quelques-unes de ces alternatives ?
Les alternatives, des alternatives, elles existent comme celles que j'ai montrées dans Les Terrestres, mais elles sont à petit format. Et donc,
vous prenez, c'est la grande échelle.
Bien sûr que je prends la grande échelle, mais il y a aujourd'hui des brèches qui s'ouvrent. Quand vous voyez par exemple les succès de la justice pour le climat, et comme par exemple ce qui s'est passé avec l'affaire du siècle, quand vous voyez le succès d'une association comme Urganda aux Pays-Bas, qui a finalement obtenu gain de cause en faisant en sorte que le gouvernement des Pays-Bas respecte les engagements qu'il avait pris à la COP21 sur la réduction de l'effet de serre, vous vous dites qu'il est en train de se passer un certain nombre de choses qui contribuent à mettre en place cette république écologique que nous appelons de nos voeux.
Noël Mamère, vous avez défendu l'écologie par vos engagements politiques, mais aussi par des actions choc. En 2004, vous avez participé au fauchage de maïs OGM. Vous avez même été condamné pour ça. Aujourd'hui, la défense de l'écologie, elle doit passer par quoi, selon vous ?
La défense de l'écologie, elle passe d'abord par la mobilisation. On ne change pas les sociétés par le haut, mais par le bas. Donc elle doit passer aussi par la pédagogie. Expliquer que l'écologie, c'est pas réservé aux plus riches, qu'elle s'adresse d'abord à ceux qui sont les plus touchés, à ceux qui sont les plus modestes. Et moi, je défends depuis très longtemps l'idée selon laquelle les victimes d'injustice sociale sont les premières victimes d'injustice environnementale. D'ailleurs, si vous regardez le monde, vous voyez bien que ce sont ceux qui, aujourd'hui, les plus vulnérables dans ce monde, ce sont ceux qui produisent le moins d'effets de serre. Un paysan du Bangladesh qui ne peut plus cultiver ses terres parce que la montée des eaux a submergé ses terres et parce que le réchauffement climatique a salinisé les terres sur lesquelles ils cultivaient, ces gens-là se deviennent des réfugiés. Ils sont réfugiés pour l'instant à Dhaka. Il y a 10 000 personnes qui arrivent chaque jour à la capitale Dhaka. Mais selon l'Organisation des Nations Unies, dans les 20 ans qui viennent, si ça continue comme ça, il y aura 150 millions de réfugiés climatiques.
Noël Mamère, pour terminer, quelles sont vos envies aujourd'hui ? Est-ce que vous voulez continuer en politique, écrire d'autres ouvrages ?
Écrire d'autres ouvrages. Je viens d'envoyer hier après-midi à mon éditeur Les Petits Matins l'actualisation d'un livre que nous avions écrit avec Patrick Farbiaz en 2014 qui s'intitulait « Contre Zemmour, réponse au suicide français ». Qui essayait de déconstruire ce livre et de montrer d'où venait la pensée Zemmour, entre guillemets. Et donc là, nous ne sommes pas contentés de rééditer ce texte, mais nous avons travaillé chacun de notre côté. Patrick a travaillé sur qu'est-ce qui s'est passé depuis 2014 en Europe et en France, notamment à la montée en puissance des populismes et de ces régimes dits illibéraux, qu'ils soient du Brésil, de la Pologne ou de la Hongrie. Qu'est-ce qui s'est passé en France, et notamment l'avènement du macronisme et les renoncements de la droite et de la gauche, et en particulier du braconnage de la droite sur les terres de l'extrême droite. Et moi, je me suis astreint à lire ligne par ligne le dernier livre de Zemmour, « La France n'a pas dit son dernier mot », à la fois pour le déconstruire et pour montrer l'ampleur des mensonges, et donc apporter des éléments. Donc ce livre, il se veut une sorte de manuel. Je sais bien qu'il ne sera pas lu par ceux qui soutiennent Zemmour. Mais il faut que l'on trouve des arguments pour contrer ce qui est aujourd'hui, ce qui entre dans la tête des gens, j'allais dire, à l'insu de leur plein gré. Comme si aujourd'hui l'extrême droite et les mots qu'utilise Zemmour pouvaient être acceptés par la société. Ce livre, je pense, s'appellera « Zemmour, un cauchemar français » et le sous-titre « Comment on en est arrivé là ?» Et j'ai quelques projets, je continue mes projets de documentaires pour la télévision. Donc là, j'en ai en cours avec un réalisateur qui s'appelle Martin Blanchard sur la résistance des représentants des énergies fossiles qui sont en train de bloquer, ou en tout cas qui risquent de faire échouer la transition énergétique, la transition écologique. Et j'ai un autre projet sur l'histoire de l'écologie politique depuis Henri-David Thoreau et jusqu'à la période contemporaine.
Et juste sur la sortie de votre ouvrage...
Il sortira au mois de janvier.
Noël Mamère, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Vous vous sentez comment, là, avant l'arrivée de monsieur le député ?
On s'échauffe tranquille, respirez bien.
Pouf ! En reportage avec Radio B.
Jeudi dernier à Nantua, le département de l'Ain a organisé pour la première fois des assises du bois et de la forêt. Une journée où les professionnels du secteur étaient rassemblés pour penser l'avenir de notre forêt et sa mise en valeur. C'est un secteur important pour notre territoire avec 5500 salariés. Les forêts recouvrent un tiers de notre département et parmi elles, un tiers appartient à l'État et aux communes. C'est l'ONF, l'Office National des Forêts, qui s'en occupe et nous sommes allés visiter la forêt de Seillon pour mieux comprendre sa gestion et parler de l'avenir de notre forêt.
David Pivot, technicien forestier territorial à l'Office national des forêts. Donc, mon travail consiste en la gestion de forêts publiques, donc en l'occurrence pour moi, deux forêts domaniales qui se situent en périphérie de Bourg, la forêt domaniale de Seillon, forêt domaniale de l'Arena, et des forêts communales qui se situent également dans le même secteur sud-ouest de Bourg. Donc, les forêts communales appartiennent à des communes et les forêts domaniales sont propriété de l'État.
On est donc au parking de la Chèvrerie, donc à la forêt de Seillon. C'est quoi un peu les particularités de cette forêt ?
Donc la forêt de Seillon, c'est tout d'abord une forêt périurbaine, c'est-à-dire qu'elle touche l'agglomération de Bourg-en-Bresse. Elle est intégrée sur les communes de Perona et de Bourg. C'est une forêt qui fait à peu près 600 hectares, qui est une forêt qui va combiner les trois grandes fonctions qu'on donne aujourd'hui aux forêts françaises. Une fonction de production, puisqu'on produit ici un bois de qualité qui est apprécié notamment en tonnellerie, en menuiserie, en ébénisterie, avec principalement le chêne, donc les chênes sessiles, les chênes pédonculés, qui sont les essences traditionnelles locales. C'est aussi une forêt qui a un rôle social important, puisque elle est souvent décrite comme le poumon vert de Bourg-en-Bresse. Et puis la dernière fonction qu'elle remplit, c'est la fonction de protection, puisque à peu près 40 mètres sous nos pieds se situent les nappes d'eau qui alimente une partie de l'agglomération de Bourg en eau potable.
Dans cette forêt, on retrouve quelles espèces ?
Alors, les espèces principales que l'on va rencontrer, c'est le chêne, donc chêne sessile principalement, donc qui est une essence qui était naturellement présente ici depuis des centaines d'années, qui est aujourd'hui l'essence la plus commune. Alors, c'est pas arrivé naturellement, entre guillemets, puisque la forêt de Seillon, avant d'être forêt domaniale, appartenait à des religieux, en l'occurrence les chartreux qui étaient installés à la chartreuse de Seillon à Perona. Et ces chartreux avaient besoin de bois d'œuvre pour pouvoir construire notamment différents édifices. Et pour la construction, le chêne est bien meilleur que le hêtre. Le hêtre était l'essence à ce moment-là la plus présente sur la forêt, on en voit encore quelques-uns autour de nous. Les chartreux ont travaillé la forêt pour favoriser le chêne au détriment du hêtre. Donc l'image que l'on a aujourd'hui de cette forêt de Seillon avec une majorité de chênes et quelques hêtres en mélange, elle est liée uniquement à la sylviculture qui a été conduite depuis des siècles, d'abord par les moines, puis par les forestiers des eaux et forêts, puis de l'Office national des forêts.
Montrez-nous un chêne sessile alors.
Alors le chêne sessile, ben voilà, on les a devant nous, il y en a plusieurs. Donc on est sur des arbres qui ont un peu plus de 100 ans, 100-120 ans. Ils ne sont pas très gros hein, pour cet âge-là. Ici, les chênes poussent lentement. On considère qu'un chêne mature en forêt de Seillon, c'est un chêne qui va avoir entre 180 et 240 ans. Ici, ils sont encore relativement serrés. Donc ils ont cette forme caractéristique avec un tronc très fin, très élancé. Et puis au sommet, ce qu'on appelle le houppier, c'est-à-dire l'ensemble des branches qui est plutôt resserré. Et de fait, ils sont en concurrence les uns avec les autres. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on coupe régulièrement des arbres en forêt. C'est pas pour se faire plaisir ou pour gagner de l'argent. C'est principalement parce que dans notre sylviculture, pour que nos arbres se développent, on a besoin régulièrement de leur redonner de l'espace pour qu'ils puissent développer leurs branches, leur système racinaire et continuer à grossir sans souffrir de la concurrence de leurs voisins.
On a parlé donc des chênes sessiles. Oui. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre et en fait en quelle quantité on trouve chaque essence ?
Chêne sessile, ça va être à peu près les trois quarts des arbres à Seillon. Ensuite, en proportion, on va retrouver à peu près une dizaine de pourcents en chêne rouge d'Amérique, donc qui là sont des plantations qui ont été faites après-guerre dans des secteurs où on n'avait tout simplement plus les chênes sessiles. Donc on a planté une nouvelle essence qui était un peu à la mode à cette époque-là parce qu'elle poussait assez vite et assez bien. Aujourd'hui, c'est une essence qui a un intérêt économique puisqu'elle est adaptée à des sols sur lesquels on a plus de mal à faire des chênes de qualité. Pour nous ici, elle est un peu plus contraignante puisqu'elle a aussi un petit côté entre guillemets invasive. Elle a une reproduction qui est assez forte. Elle se développe assez vite, donc on doit lutter un petit peu pour la contenir sur les secteurs où elle est présente et pas la diffuser sur l'ensemble du massif.
Comment on fait la différence déjà entre chêne rouge et chêne sessile ?
Alors, le chêne sessile va avoir la feuille de chêne traditionnelle.
Hop, voilà.
Donc cette feuille avec ses lobes arrondis. Donc qui est très connu, hein. C'est une feuille qu'on voit assez facilement. Le chêne rouge d'Amérique va avoir une feuille qui est beaucoup plus grosse souvent et dont les lobes, au lieu d'être arrondis, sont pointus. Et puis en complément, donc de façon plus diffuse, on va retrouver le hêtre, le charme, qui elles sont plutôt des essences d'accompagnement, c'est-à-dire qui vont accompagner la croissance des chênes autour d'elles. Voilà. Et puis bon, de façon beaucoup plus diffuse, on va retrouver des essences plus traditionnelles, le merisier, l'érable. On a quelques châtaigniers, on va trouver du tremble, on va trouver des saules sur les secteurs les plus humides, de l'aulne glutineux aussi sur les secteurs les plus humides. Sur ces chênes rouges, vous pouvez constater qu'on a des traces de peinture, des croix, et puis également ce qu'on appelle nous des empreintes de marteau. Donc, c'est les cicatrices que vous voyez, les deux cicatrices rondes. Mes collègues et moi avons parcouru la parcelle pour identifier les arbres qui étaient à couper. L'année prochaine, ces arbres seront exploités et seront soit transformés en scierie, soit utilisés pour la production de bois de chauffage.
Ils ont été choisis parce qu'ils sont assez vieux, parce qu'ils gênent comme...
Alors là, on est toujours dans l'objectif d'abaisser nos densités pour favoriser les bois les plus beaux, donc les mieux conformés. Donc soit ce sont des arbres qui sont tout simplement gênants pour d'autres qui ont une meilleure forme, soit ce sont des arbres qui ont des problèmes sanitaires identifiés. Ici, on est vraiment très près des aires de jeu, donc on ne peut pas se permettre de conserver des arbres qui auraient une fragilité, puisque le risque serait qu'ils tombent sur la zone d'accueil. Ou ce sont des arbres qui sont plus petits que les autres, qui sont dominés et donc qui sont voués naturellement à disparaître. Simplement, on va anticiper un petit peu l'œuvre de la nature. On ne va pas attendre qu'ils soient tués par l'excès de concurrence. On va les récolter avant pour pouvoir valoriser la matière.
Quand vous coupez des arbres, donc là, c'est parce qu'ils gênent, etc. Donc, vous n'en replantez pas forcément.
Alors, ici, on travaille très peu par plantation, tout simplement parce qu'on a des peuplements qui ont une très bonne faculté à se régénérer naturellement. On utilise les capacités de fructification de nos arbres qui sont en place, qui, à intervalles réguliers, vont produire des graines, qui tombent au sol, qui donnent naissance à de nouveaux arbres. Et ensuite, on va travailler au profit de ces jeunes arbres, vis-à-vis de la concurrence, vis-à-vis de tout ce qui peut nuire à leur survie, pour leur permettre de grandir et de donner la forêt de demain. C'est ce qu'on appelle la régénération. Nous, on parle de régénération naturelle quand on travaille comme ça avec la fructification des arbres, et de régénération artificielle quand on vient planter. Aujourd'hui, l'idée, c'est de planter un minimum. On compte beaucoup sur la qualité génétique des arbres qui sont déjà présents. Ce sont des arbres qui sont adaptés aux situations de sol, aux conditions de sol, à certaines données météo. Donc on sait que les descendants vont hériter de ces qualités génétiques. Le gros doute maintenant, il est sur l'évolution du climat. Il y a beaucoup d'études qui sont en cours pour connaître les capacités d'adaptation de ces jeunes arbres. Ça semble plutôt positif, même s'il y a encore beaucoup de choses à étudier. Mais aujourd'hui, il semblerait que les jeunes semis, donc nos jeunes arbres issus de ces graines, aient des capacités à s'adapter aux conditions météo qu'ils vont rencontrer dans leur plus jeune âge. On peut espérer que les chaînes d'aujourd'hui donnent des chaînes de demain qui soient plus adaptées au climat de demain également.
Ça fait combien de temps que vous travaillez dans les forêts ?
Alors, dans les forêts, j'ai commencé à travailler à l'ONF en 2000 et je suis sur la forêt domaniale de Seillon depuis 12 ans maintenant.
Ces 12 dernières années, vous avez vu des évolutions dans cette forêt ? Est-ce qu'il y a eu plus de maladies ou des changements dans la forêt ?
Alors, il y a eu effectivement des évolutions. Il y a quelques frênes sur la forêt de Seillon qui ont été frappées par la calarose. Il y a quelques épicéas qui, historiquement, avaient été implantés, qui ont séché suite aux problèmes climatiques avec les problèmes de scolite. Donc ça, on l'a vu. On a constaté également, sur certains secteurs un peu difficiles, une mortalité des chênes qui semble plus importante. C'est, pour le moment, très limité. Il n'y a rien d'inquiétant, mais on voit quand même que certains arbres ont souffert des 3 années de sécheresse qu'on a eues entre 2017 et 2019. Ça, c'était inévitable.
Pour penser donc l'avenir de la forêt, donc on parle du réchauffement climatique, certaines espèces pourraient ne plus pousser ou ne plus survivre. C'est quoi les espèces d'avenir ?
Alors, c'est très difficile à dire. Tout simplement parce que aujourd'hui, les projections qu'on a par le GIEC ou autres, elles sont fiables à peu près jusqu'en 2050. Après 2050, bah, tout dépend de ce qu'on va faire aujourd'hui avec notre activité humaine, principalement. Hein. Et les essences d'avenir, c'est des essences qui ont un avenir à 50 ou 100 ans. Donc on est bien au-delà de 2050. Donc, aujourd'hui, on travaille sur des modèles informatiques qui nous donnent une orientation. On diversifie les essences quand on peut le faire. Sur Seillon, je vous disais, on fait beaucoup de régénération naturelle. Là, sur certains secteurs, on va commencer à planter des essences qui ne sont pas présentes pour le moment, alors qu'il reste des essences françaises plus ou moins locales. Donc on n'importe pas d'essences de l'étranger pour les implanter comme on a pu le faire avec le chêne rouge à l'époque. Là, on va faire des essais avec des poiriers sauvages, avec de l'orme, avec de la lisier terminale. Donc voilà, des essences qui pour le moment sont présentes dans le département, mais pas forcément sur Seillon, et qui, on l'espère, s'adapteront au changement climatique tel qu'on va le connaître ici. On va essayer d'avoir la forêt la plus diversifiée possible, la plus résiliente possible, continuer à travailler sur des modèles qui nous permettent d'anticiper au maximum en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques sur le changement du climat, et puis espérer aussi que nos sociétés prennent conscience qu'il faut ralentir un moment, qu'il faut trouver une autre façon de faire pour protéger aussi ces espaces naturels.
Merci à David Pivot, technicien forestier à l'ONF. Et à partir du 27 octobre, vous pouvez retrouver en ligne les conférences qui ont eu lieu pour les Assises du bois et de la forêt. C'est sur le site du département www.1.fr.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Églantine et à Roxana en stage à la radio et merci à vous pour votre écoute.
Et on se retrouve lundi prochain à 18h sur le 90FM, une émission sur le deuil avec un médecin spécialisé dans les soins palliatifs et un reportage au crématorium pour animaux de Château-Gaillard. Belle journée sur Radio B.
Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois, donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici, dans le monde carcéral, et une chance surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.